Bonjour Ben.
Salut Ophélie.
Bienvenue dans le
Merci.
salon.
Le salon des confessions.
J'aime bien. Donc voilà, on était en train de se demander ce qu'on allait dire en fait. Parce que, soyons honnêtes, on n'est pas trop sûr. C'est moi qui t'ai invité et même moi, je ne suis pas sûre de ce qu'on va parler aujourd'hui.
Bah, on peut peut-être parler de l'élément déclencheur qui a fait que tu as pensé à me réinviter. C'est que tu es venu me voir en spectacle récemment,
2 jours de suite.
deux jours de suite. Tu as eu un week-end intense de
C'est
Benjamin.
vrai, j'ai dû m'en remettre là, le week-end dernier.
As vu
Nouveau spectacle.
le nouveau spectacle en work in progress
En anglais.
en anglais. Et après, tu as vu une soirée stand-up en français
Avec des autres
avec
humoristes
d'autres humoristes aussi, ouais,
de
à Bâle, tout
Zurich.
ça à Bâle. Ouais. Puis on avait un petit peu parlé après, je t'avais parlé de ce que j'essayais de dire dans ce spectacle.
Ah
Et tu as dit, ah, ce serait pas mal d'en parler dans le podcast vu que je n'ai pas du tout compris ça quand j'ai vu le spectacle. Donc c'était un très bon feedback. Sans le vouloir, en fait, tu m'as détruit.
non.
Depuis, je suis rentré en
Tu fais
dépression.
plus
J'ai arrêté le stand-up. Merci Ophélie.
Parlons-en
Je
maintenant.
suis juste invité de podcast maintenant. Ça va être ma façon d'exister.
Non, ok, alors c'était pas du tout mon intention.
Je rigole, merde.
C'était un feedback, c'était juste un
Non, mais en tant
commentaire
que stand-upper,
entre.
je suis obligé de dire des conneries en tant que
Ah
stand-upper. Je
ouais,
peux pas être complètement
ok. Ah mais
sérieux
moi je
tout le
suis
temps.
thérapeute, tu vois aussi, donc
Ah oui, mais alors, non, on va pas faire la psy parce que déjà, ça va faire chier tes
Je me dis,
auditeurs.
oh mon Dieu, j'ai dit un truc qu'il fallait pas.
Non, tu vois, un psy aurait dit, ah, c'est intéressant que tu aies réagi comme ça, Benjamin. Pourquoi? Et toujours remettre la faute sur le patient. C'est jamais de la faute du thérapeute.
Ah ben ça c'est sûr. Ok, donc voilà, ton nouveau spectacle en
Ouais.
anglais que tu m'as dit avant, on va commencer en juin, mais que tu testes un peu déjà maintenant.
Ouais. Je teste, j'ai fait deux tests pour l'instant. Là, on est mi-avril et ça commence début juin. Et je pense qu'il faudrait que je fasse encore un ou deux tests.
Et ah, tu sais déjà où?
Non, je sais pas.
Ok. Basel.
Non, je ne peux pas parce que je suis programmé à Basel en novembre au Taburetli, ce qui est un grand honneur. Je suis très content. Mais par respect pour le Taburetli, il ne faut pas que je fasse trop de try-out à Bâle.
Ok,
Donc j'en ai fait un après quelques négociations.
avec
Donc,
eux.
ouais, donc je vais en
Ah
faire
ouais.
un deuxième.
Ah, je savais pas que ça se passait comme ça.
Bah, ça dépend des. Après, si tu veux, si jamais j'étais quelqu'un qui vend tous ses tickets en 2 jours, il n'y a pas de
Bah,
problème.
d'ici novembre,
Mais oui,
tu
d'ici
seras
novembre,
cette
j'ai le temps
personne.
de les vendre.
Non,
Mais ah, de devenir cette personne.
ouais.
Bah écoute, j'espère, hein, c'est un peu le rêve de tout humoriste. Parce qu'en fait, moi je pense que la vraie seule façon de gagner sa vie en tant qu'humoriste, c'est de vendre des billets. C'est d'avoir assez de magnétisme pour le public de vendre assez de billets.
Quelle est la clé de ça, tu penses? De juste le
Et
faire assez
écoute, je ne
longtemps
sais
ou...
pas, c'est un grand mystère. Je pense que les gens qui réussissent ça, je pense que c'est un mystère pour eux aussi. Bon, mais après, ouais, je pense que c'est du travail, mais c'est du travail pas que sur ton stand-up en fait. Il faut travailler son marketing aussi. Chose que j'ai négligée pendant 7 ans.
Ah, ok.
Donc, enfin, que j'ai négligé, non, c'est que. Enfin, oui, si, j'ai négligé, mais c'est pas parce que je voulais négliger, c'est que j'avais un boulot à plein temps, plus des enfants. Et en fait, dès que j'avais du temps libre, je préférais le passer à peaufiner mes blagues et en écrire de nouvelles que faire du marketing.
Ouais, parce que c'est ça aussi de nos gens, je trouve. Donc, moi, je suis plus dans le milieu yoga, tout coach, tous ces
Ouais.
trucs-là. Et souvent, en fait, je vois que... Alors, les humoristes, c'est peut-être complètement différent. Mais dans ce monde-là, souvent, ce qu'on te vend, le marketing est beaucoup mieux que ce que le produit ou le service, je trouve, souvent.
Ouais.
Il y a beaucoup de
gens qui me disent qu'ils découvrent des humoristes sur Instagram et quand ils vont les voir, ils sont déçus.
Moi, je dis ça, non ? J'ai pas dit ça.
Mais t'es pas la seule, en fait. Non, mais oui, effectivement, je pense que tu me l'as dit, mais je pense que tu dois être la troisième ou quatrième personne qui me le dit en un mois.
Ouais, parce que marketing, c'est un job en soi. Ouais. C'est pas...
Donc, pour moi, c'était essentiel d'avoir un show, d'avoir des blagues qui sont, genre, qui tuent, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je paye un peu aussi de ne pas m'être concentré sur marketing puisque... Enfin, c'est pas comme si il se passait rien, hein. Mais si je compare, et on dit qu'il faut pas se comparer, mais t'es toujours obligé de te comparer, surtout. Et là, pour le coup, je me compare pas, tu vois, à des gens abstraits, tu vois, des humoristes très connus, etc. Je me compare à des gens avec qui j'ai commencé.
Ouais.
Et qui gagnent bien leur vie aujourd'hui parce que ils ont été plus malins que moi sur le marketing.
Et tu leur parles des fois à ces gens-là de ce qu'ils ont fait, de ce qui a marché, vous échangez des fois?
Oui, mais ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont posté des vidéos de manière très régulière et non, mais c'est ça, hein. Et qui donc ils vont pas m'en apprendre beaucoup plus que ce que je sais déjà, quoi.
Ouais.
Mais quand je leur ai parlé, c'est exactement ce qu'ils m'ont dit aussi. Donc, mais faire des choix, je pense aussi faire des choix assez intelligents sur quel type de vidéo tu fais. Parce que déjà, en fait, même, tu dois réfléchir à quel concept de vidéo je peux faire que ce soit pas tous les jours une énorme production, tu vois, que ce soit possible de tenir le rythme.
Ouais.
Donc ça doit être simple. Et en même temps, ça doit être accrocheur avec ton public. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai pas trouvé la formule. Je suis allé à tâtons depuis décembre dernier, là. Et j'essaye plein de trucs, jusqu'à ce que...
Je trouve. S'appelle.
Mais tu sais, aujourd'hui, je pense à deux personnes en particulier qui gagnent bien leur vie avec ça. Ils ont pas besoin de Netflix. Après, peut-être un jour, ils seront sur Netflix et tant mieux pour eux. Mais pour l'instant, voilà, c'est des gens qui, indépendamment, ils sont pas à Télé Suisse, ils sont pas dans les médias traditionnels. Et pourtant, ils remplissent les salles. Donc c'est possible, quoi. Mais après, la question, c'est est-ce que ça arrive à tout le monde aussi ? C'est intéressant, quoi.
Ouais.
Je ne sais pas.
Ça aussi, je me
On joue tous un peu une loterie, quoi.
Ouais. Et tu peux... Alors, je suis vachement dans pensée limitante. Je sais que toi aussi, pensée limitante. Tu t'essayes...
Alors, moi, j'ai un pied dedans.
Voilà,
tu t'orteilles. Non, un pied.
Okay.
Mais pas les deux.
Mais bon, voilà. Est-ce que... Et d'ailleurs, quand t'as dit avant... Ils font aussi un gros travail de marketing. J'ai cru que t'allais dire un gros travail sur eux. Et je me dis, est-ce que... Je connais pas la réponse.
Non, mais alors si je peux te dire une chose, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire un travail sur eux, puisqu'ils ne se posent pas les mêmes limites psychologiques que je me pose.
Ah.
Et ce sont des gens qui ont très forte confiance en eux, que clairement je n'ai pas.
Ça, c'est hyper intéressant.
Et je ne sais pas comment on résout ça. Mais oui, c'est clair que...
Donc, il y a des gens, à la base, ils ont déjà tellement confiance.
Oui, voilà. Mais après, je vois aussi, dans notre cercle d'humoristes zurichois, qu'il y en a aussi qui ont très forte confiance en eux. Mais ça suffit pas. Je pense qu'il y a... Il y a le travail. Il y a une histoire de confiance. Ouais, je sais pas que je...
Il y a le travail, donc, sur les blagues. L'histoire de confiance, le marketing.
Ouais. Mais tu vois, par exemple, on parlait avant de commencer l'enregistrement, et je pense que ça va être probablement un podcast sur la confiance en soi. tu me disais, qu'est-ce que ça te fait? Enfin, tu vois, donc j'ai ce spectacle qui commence en juin. J'ai vraiment énormément de mal à me dire que je suis prêt. Parce que, en fait, si tu veux, non, je sais que je suis pas prêt. Mais j'ai énormément de mal à me dire je serai prêt en juin, je peux commencer à en parler, je peux pousser, je peux commencer à faire du bruit et ça me bloque. Déjà, en fait, c'est mon deuxième spectacle. Le premier spectacle, j'ai mis 7 ans à l'écrire. En fait, au début, je faisais juste des blagues sur des sujets différents et puis j'avais pas pensé à les mettre ensemble. Et j'ai mis 7 ans à trouver l'histoire qui ferait que tout allait s'imbriquer. Et là, ce deuxième spectacle, je l'ai écrit l'année dernière. Alors, beaucoup à Bâle, en fait, parce que le dimanche soir, il y a un open mic où on peut faire des passages de 15-20 minutes. Donc, je suis venu plein de dimanches faire des longs bouts de 15-20 minutes. Alors, c'était horrible, parce que quand tu testes pendant 15-20 minutes, c'est vraiment... psychologiquement, c'est vraiment ouais. Dur. Parce que le test, c'est une fois sur deux, ça marche, ouais. Tu vois, et encore, ou même plutôt une fois sur trois, quoi. C'est mais long, quoi. Ça m'a permis d'écrire, là j'ai 70 minutes de spectacle, je pense que ça fera au final 80, peut-être 90, mais allez, disons 80. Cette fois-ci, j'avais choisi le thème avant d'écrire. Mais maintenant, je sais que la prochaine fois, je choisirai une histoire. Parce que je veux vraiment, en fait, moi, le stand-up qui passe de sujet en sujet sans cohésion, ça m'intéresse pas. Mais après, je me suis aussi aperçu que juste faire un sujet pendant 1h20, le risque, c'est de faire un TED Talk pendant... toi, tu l'as vu le spectacle, j'ai pas l'impression que ça fait TED Talk. Enfin, il y a quand même... Ouais, c'est quand même axé sur quand même rendre le sujet drôle. Mais bon, voilà, c'est l'apprentissage. Tu vois, le premier solo, j'ai appris que ça sert à rien de faire des blagues tous azimuts en espérant que on va trouver une trame, parce que non. C'est justement tu fais des blagues de 5, 10, 15 minutes sur un sujet, c'est pas du tout fait pour s'imbriquer dans un truc plus gros. Si t'as pas de si tu penses pas à designer des trucs comme ça. Et là, ce que j'ai appris avec ce deuxième solo, c'est j'avais choisi un thème, mais en fait la prochaine fois je choisirai une histoire, tu vois, un truc dramatique qui tient le public en haleine, j'espère, pendant tout ce temps-là.
Tu sais déjà le thème ?
Non, je sais pas. Non, je suis encore en train de d'essayer de je suis encore sur ce solo là.
En juin. Que moi j'ai déjà vu.
Que toi t'as déjà vu. Ouais.
Qui m'a fait pleurer de rire.
C'est sympa.
Je tiens à le préciser.
Merci.
Encore une fois.
Mais tu vois, par exemple, par exemple, grosse crise de confiance là, j'ai un passage justement où je parle des réseaux sociaux dans le passé, etc. En général, les gens me disent c'est le passage qu'ils ont préféré. Et je me suis tapé un gros bide. Déjà, je me suis tapé un bide quand je l'ai fait en français. Et je me suis retapé un beat quand je l'ai fait en allemand, là, dans une scène ouverte, alors qu'en anglais, ça avait super bien marché. Ouais. Mais même, enfin, j'avais fait en français autre part, ça avait super bien marché aussi, donc c'est assez compliqué.
Ça dépend vraiment de l'audience, quoi. Tu sais jamais, en fait.
Oui, mais...
Parce que là, ça marche, le lendemain, pas trop. Mais parce que c'est une autre nationalité, une autre culture, une autre...
Ouais, je sais pas exactement, j'ai pas trouvé les raisons, mais faut que ça marche parce que
c'est écrit dans le spectacle.
C'est écrit dans le spectacle, et puis moi je pense que t'as quand même dans l'humour, tu dois être efficace, quoi.
Mais donc, j'avais plein de questions.
Vas-y.
Sur ce processus, tu vois, d'abord, t'as trouvé le thème pour celui-là.
Alors, c'était un thème qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Donc, en fait, je parle des débuts d'Internet. Et il y a un moment, je fais un jump parce que c'est aujourd'hui, en fait. Je fais pas tout ce qui s'est passé entre. Je fais pas l'histoire d'Internet. Je fais vraiment les débuts. Et paf, ce qui est devenu Internet dans nos vies. Parce que dès le début, en fait, moi, ça m'a fasciné Internet. Il y avait une espèce d'ouverture sur le monde tout à coup qui est incroyable. Tu pouvais parler avec des gens aux quatre coins du monde. Moi, je trouvais ça génial. Des gens qui m'ont confronté aussi avec ce que moi, je pensais normal en France et qui m'ont dit... tu vois, notamment par exemple... Quand tu grandis en France, on te dit que la Révolution française, c'est le meilleur truc qui s'est passé dans le monde et que ça a été un grand moment de lumière pour le monde entier, machin. Donc déjà, on te dit, souvent, t'entends même des politiciens qui disent, oui, la France, le berceau de la démocratie, etc., sans te dire que déjà, il y a eu la démocratie américaine avant la nôtre. Et il y a eu aussi la démocratie athénienne, plusieurs, tu vois, même bien avant la nôtre, mais bon, bref. Et que la Révolution française, ça a été aussi un événement traumatique pour beaucoup de gens en France. Mais moi, je pense toujours que la Révolution française, c'était un truc bien, mais comme, si tu veux, dans le système éducatif, on t'apprend à célébrer ça, et là, tout d'un coup, je me retrouve face à des gens assez cultivés quand même, parce que des Anglais, des Américains, qui sont quand même assez renseignés sur le truc, enfin, même s'ils avaient des idées, voilà, auxquelles j'adhérais pas forcément, mais bon, moi, je n'en savais pas autant sur leur histoire, tu vois. Et voilà, qui t'explique que ça a été horrible la façon dont les révolutionnaires se sont comportés, etc. Et je te dis, mais comment oses-tu toucher à ça, tu vois. Et après, aussi, sur l'attitude de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, où effectivement, on passe pas sous silence le fait que Pétain a serré la main à Hitler et qu'il y ait de la collaboration, etc. Mais tu vis quand même dans une société où on te dit que finalement, oui, mais bon, tout le monde a été résistant, tu vois. Alors toi, t'as grandi en Alsace, donc peut-être que t'as eu. je pense que c'est encore plus compliqué pour vous, cette histoire-là. Mais en tout cas, tu vois, enfin, les films que tu regardes, c'est Papy fait de la résistance, c'est des trucs, tu vois, les héros, machin, alors que la plupart des Français. N'ont pas été héroïques, voire même l'inverse, tu vois. Et ils commencent à m'attaquer là-dessus, mais moi j'étais jeune, tu vois, j'avais 14 ans, 15 ans, mais je me souviens que je m'étais couché en me disant, waouh, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vois. Même si j'avais pas vraiment le cerveau pour réfléchir sur ce qui s'était passé dans cette chatroom à ce moment-là, mais ça m'avait quand même marqué. Et en même temps, je me disais, bon, bah, ouais, ça va être intéressant parce que, au final, bah, va y avoir plein de confrontations d'idées et que, et je m'étais fait,
c'est ce qui se passe.
Je m'étais fait la réflexion que la vérité allait sortir, d'Internet. Alors que je trouve que c'est vraiment l'inverse, quoi.
Ouais.
Même s'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de challenges, la vérité, comment dire, politique, tu vois, d'un pays, etc. Mais c'est aussi, enfin, il y a aussi quand même beaucoup de conneries qui se disent, quoi.
Donc. Ben ouais, tu sais, au point où on sait pas.
Non, et en fait, voilà, aujourd'hui, donc c'est l'âge de l'information, on ne sait plus ce qu'il faut croire, quoi. Ce qui est vrai, ce qui est pas vrai.
Limite, tu vois un truc et tu te dis, bon.
Ouais.
On sait pas, en fait.
Ouais, en fait, on sait pas.
Donc on le regarde. Enfin, moi, je regarde pas.
Ouais. Donc c'est un peu mon propos, en fait. Mais voilà, donc c'était un truc qui m'avait vraiment intéressé. Ouais,
qui tient à cœur.
Qui me tenait à cœur. Mais après, je pense qu'on a été aussi la première... ma génération, c'est un peu la génération de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a grandi tout à coup avec des dessins animés japonais. Et ça, c'est la mondialisation. C'est, enfin, tu vois, avant, les enfants français, ils grandissaient avec... avec des bandes dessinées ou des artistes, tu vois, français, quoi. Et là, tout à coup...
C'est l'hormone.
Voilà, c'est l'hormone, etc. Mais nos parents aussi avaient grandi avec le rock, enfin, le rock même. Grof, c'est plutôt les grands-parents, mais mes parents avec la musique américaine des années 70, enfin, tu vois, et anglaise. Donc, on n'était pas non plus la première à avoir des cultures... Mais il y avait quand même une proximité, disons que ça restait un peu l'Occident, si tu veux, la musique américaine, anglaise, etc. Là, tu te retrouves avec des dessins animés japonais, tu vois, tu pars vraiment sur quelque chose de complètement différent. Et aujourd'hui, la nouvelle génération, leur passion, c'est les Coréens.
Ouais, c'est vrai.
Mais,
la musique coréenne et tout.
Donc voilà, donc il y avait eu quand même un peu par la télé, il y avait eu un peu une ouverture à d'autres cultures, mais t'es vachement en mode, t'es en mode réception, alors qu'Internet, tu vois, t'étais en train de parler à des gens, quoi.
Ouais.
Et donc c'était génial, enfin, c'était incroyable que tu pouvais passer des heures à lire des trucs sur des choses qui t'intéressaient, alors qu'avant c'était pas possible. Tu vois, tu devais acheter un magazine ou un livre, alors que vraiment avec Internet, tu pouvais aller au gré de ta curiosité, et puis tu cliques d'une page à l'autre et tu...
Mais je ne l'ai pas vécu comme ça. C'est pas...
Ouais, parce que toi,
il y a
toi,
pas
t'es...
un moment clé où je me suis dit « Waouh !» Je trouvais ça... Non, je n'ai pas vraiment...
J'ai après, c'est pour ça que moi, j'en ai fait un spectacle, parce que ça m'avait vraiment fasciné dès le début. Tu vois, à 15 ans, j'avais déjà conscience de la révolution que c'était, ce truc, en fait.
Bon, pas du tout.
Mais je suis passé à côté de plein de trucs aussi, tu vois. Quand je vois... j'étais un des premiers à faire des sites web auprès de mes amis, etc.
Ah ouais.
Et j'ai eu plein d'idées que je n'ai jamais, parce que je n'avais pas la fibre entrepreneuriale, etc., tu vois. Mais faire un site où les gens pouvaient mettre les photos de la classe, tu vois, pouvaient se retrouver avec ses anciens amis, etc. Enfin, j'étais pas le seul à avoir fait, il y en avait plein. C'est d'ailleurs pour ça que même Facebook, tu vois, il a pas eu l'idée. Il a vu que plein de gens faisaient ça, donc il a dû se dire, ouais, il y a un besoin. Donc créons une espèce de, tu vois, d'annuaire, enfin pas un annuaire, mais tu vois, un truc où tu peux te retrouver avec les gens de ta classe, quoi.
T'as fait du code?
Un petit peu. J'étais pas, enfin j'étais assez bon en programmation, mais très vite en fait il y avait déjà des softwares qui te permettaient de faire des pages web sans code, en fait.
Okay.
Et ça, c'est arrivé très vite.
Okay.
Je pense que pour être obligé de faire une page web en HTML, tu devais même avoir 10 ans de plus que moi déjà.
Tu vois, ça c'est des trucs que je suis pas, je connais pas. C'est pas du tout dans ma réalité. Ouais. Je fais des pages internet maintenant.
Ouais.
Parce que tout le monde le fait aussi.
Ouais.
Mais...
Non, non, à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait migal.org, qui était, je crois, le premier truc français qui a vraiment essayé de démocratiser Internet pour que tout le monde fasse des sites, exprime-toi, etc. Donc, moi, j'avais fait ce site, justement, sur les gens de ma classe, sur migal.org, et qui est devenu, après, Migal est devenu Multimania, a été racheté par Multimania, qui après a été racheté par Lycos. Je sais tout ça parce qu'en fait, l'URL de mon site a changé de nom 4 fois suite au rachat, diverses acquisitions d'Internet.
Et tu l'as encore?
Non, il n'existe plus. Toutes ces pages-là ont été effacées. Ces services n'existent plus, et heureusement d'ailleurs.
Ouais.
Mais
je peux te demander ce que tu penses de ChatGPT et de... Et de maintenant, il y a aussi le AI, intelligence. Il y a dans le WhatsApp et Instagram. Tu sais, il y a cette roue-là.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Que toutes les informations sont directement, aident directement toutes ces...
C'est un moment inévitable. Et c'est inévitable depuis le début, en fait. On allait un peu converger vers ça. Moi, je l'ai pas forcément... J'ai eu le nez de trucs qui allaient se passer. Par exemple, moi, je me souviens, j'avais dit à ma sœur en 2000... je savais que tout le monde allait avoir Internet sur son téléphone et que ça allait très vite et que t'allais pouvoir voir des vidéos, machin. Est-ce que j'en ai fait quelque chose? Non, tu vois, j'aurais pu investir dans les technologies mobiles, mais comme je suis un idiot... Ça, j'avais eu le nez de ça, mais je dois dire que l'IA, j'avais pas eu le nez. Je savais, ou alors, je savais que ça allait arriver un jour, parce que au travers de mon boulot, j'avais déjà mis en place aussi des systèmes où on allait collecter de l'information pour pouvoir, à un moment, en faire quelque chose, une fois que l'ordinateur en serait capable, mais pour moi, c'était vraiment tellement lointain tu vois, quand ChatGPT est arrivé, ça a été un peu, pour tout le monde, ça a été un peu la surprise de « waouh ». Tu vois, enfin, et même aujourd'hui, quand je vois les progrès que ChatGPT a fait par rapport à il y a 2 ans, déjà il y a 2 ans, en fait, tout le monde a dit waouh, parce qu'avant, quand tu parlais à un ordinateur, tu voyais que vraiment, il était pas capable de suivre la conversation, quoi. Mm-hmm. Là, maintenant,
Il te sort des trucs.
Ouais, tu vois, il y a deux ans, à un moment, tu dis, ah ouais, d'accord, ok. Là, on commence à vraiment avoir une conversation avec. Mais surtout, maintenant, je vois, parce que, une de mes autres facettes que tu ne connais pas, Ophélie, c'est que, j'ai aussi une passion pour la technologie. Ah bah, enfin, si, en fait, ça rejoint un peu tout ça. J'adore la technologie. Et en 2020, donc, quand on a fait le premier podcast, toi et moi, enfin, toi, tu m'as eu pour la première fois en invité, j'ai commencé un bachelor en ingénierie électronique.
Ouais, non, je savais pas.
Que là, que je vais finir 5 ans après, bientôt, là, dans quelques mois. Et il y a 2 ans, et en fait, il y a 2 ans, je voulais voir est-ce que je peux checker mes réponses, tu vois, des devoirs, etc. Et en fait, il y a 2 ans, ChatGPT était incapable de résoudre un problème mathématique un peu plus compliqué qu'une addition, etc. Mais maintenant, enfin, il peut tout faire, quoi. Et c'est très rare qu'il se trompe. Donc c'est qu'est-ce que j'en pense, j'en sais. je pense que c'est inévitable, quoi. Après ça pose plein de questions
qui sont dans les films,
qui vont regarde. Qui vont être difficiles, parce que c'est genre déjà il y a beaucoup de gens, tu vois, si t'as un boulot qui est basé sur produire des raisonnements simples ou des trucs simples, ce sera plus suffisant, tu vois, parce que la machine peut faire le truc assez simple. Beaucoup de trucs sur la propriété intellectuelle, sur... c'est compliqué, quoi.
Sur l'art, sur... Sur aussi comment... tes enfants, par exemple, je suis sûre qu'ils doivent l'utiliser pour l'école.
Alors, pas encore, mais justement, qu'est-ce que... Enfin, même, tu vois, par exemple, l'établissement universitaire auprès duquel je fais ce bachelor, qui est un truc à distance, donc c'est souvent des examens à distance, etc. Enfin, eux, ils doivent se poser la question de, maintenant, l'IA peut résoudre les problèmes que l'IA n'était pas capable de résoudre il y a 2 ans. Donc, comment est-ce qu'ils vont adapter leur méthode pédagogique pour prendre ça en compte? Parce que ça, c'est une transformation énorme, quoi.
Mais est-ce que ça va... Moi, je me dis, est-ce que ça va nous rendre fainéants, tu vois? Parce que là, déjà...
Et on est déjà fainéants. Ouais, on est tous fainéants.
Oui.
Ça fait...
Mais encore plus. Parce que, bon, moi, je fais pas grand-chose. Je suis un peu dans la conspiration. Comme je
l'ai dit. Ah, ça y est. Ça y est, elle a fait son coming out.
Je vais juste dire ça.
Allez. Elle a fait son coming out. Ophélie est la fille la plus conspirationniste que je connaisse.
Est-ce que t'en connais d'autres?
Écoute, mes grands-parents étaient les premiers conspirationnistes que j'ai connus. Et c'est assez fort parce que ils étaient conspirationnistes bien avant Internet.
Ah ouais, donc depuis...
Mais je pense qu'on en avait... Je pense qu'on avait parlé... La première fois que j'étais sur ton podcast.
De tes grands-parents.
Ouais. Parce que ils remettaient en cause plein de trucs toujours qu'on voyait dans les news et tout ça. C'est quand même fort avant Internet d'être conspirationniste, fallait vraiment le vouloir.
Ouais. C'est vrai.
Ouais. Mais non, je connais pas beaucoup, non.
Ok. Les grands-parents.
Moi, je suis assez mainstream. Ouais.
Moi aussi, comparé à d'autres gens que je fréquente. Mais donc...
Alors, il y a des clubs, il y a des... Non, mais moi, j'ai vraiment envie de savoir.
C'est quoi? Des conspirationnistes? Non, il y a mes potes. Okay. C'est tout. Ouais. Okay. Qui font, eux aussi, des podcasts.
D'accord.
Que je peux conseiller, mais c'est en shit sur Twitch, donc...
Il y a des podcasts conspirationnistes, je suis de faire Dutch.
Mais ils parlent juste, ils se posent des questions, voilà, ils se posent des questions philosophiques qui durent 3 heures.
Tu comprends le je suis de faire Dutch?
Ouais, voilà. Tu comprends, mais toi aussi.
Bah non, j'ai du mal moi.
Ouais.
Je comprends de mieux en mieux parce que je suis souvent dans des shows. avec des humoristes suffisamment, ouais. Donc je suis obligé de... Enfin, je sais pas que je suis obligé, mais il y a un moment où je commence à comprendre. Ouais. Ouais. Mais
ça, c'est dur par contre. Hein,
c'est un long apprentissage.
L'humour en allemand et en Schweizer Deutsch, par contre, je comprends pas.
Ok.
L'humour, ouais, c'est... ça passe pas. Je... Ah, tu fais une blague, ok, non, désolé. Non, mais... ChatGPT.
Ouais.
Je lui demande que de faire mes lettres de motivation en allemand. Et il a écrit aussi, c'est il, et il a écrit mon site aussi, la page.
Ouais, mais par exemple, moi effectivement, quand j'ai des communications en allemand à faire, business, ouais. Je le fais par ChatGPT. Mm. Parce que il parle beaucoup mieux allemand que ce que je serais capable de faire.
Mais je me dis, si je commence à. Il y a des gens qui posent. Hier, mon collègue m'a dit, oui, ma mère, je lui ai montré ChatGPT, maintenant elle a des conversations avec ChatGPT. Et elle lui dit qu'elle ne se sent pas bien mentalement. Et alors ChatGPT lui dit de ce qu'elle devrait faire. Et il y a énormément de gens qui font ça.
Ouais.
Et ça, je trouve très dangereux. Pour nous, en fait.
Je sais pas trop quoi en penser parce que quelqu'un d'autre m'a dit ça. Donc j'ai voulu tester.
Okay.
Et c'est quand même pas mal ce qu'il raconte.
Mais j'en suis sûre. Mmh. C'est pour ça que c'est encore plus flippant en fait. Non ?
Bah, je sais pas.
Si tu vas commencer à aller vers ChatGPT plutôt que tes amis ou un vrai professionnel de santé qui reste un être humain, ok, mais. Donc il va peut-être faire des.
Ouais, mais déjà tes amis, si les gens ils vont voir des professionnels de santé, c'est qu'avec les amis ça marche pas, tu vois. Enfin. Ça marche pas pour qu'ils se sentent mieux. Ça peut aider, mais en général.
Ouais, oui, enfin.
Mais après, la thérapie, ça coûte cher, surtout en Suisse.
C'est vrai, ouais.
Donc, je ne sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus, parce que les gens qui m'ont parlé de ça me disent, oui, ça a été prouvé que c'est mieux que X% de psy, tout ça, j'en sais rien. Je ne sais pas qui a fait cette étude.
Mais moi, je trouve juste que c'est le côté humain, en fait, qui manquera, tu vois, si on se met tous à faire ça.
Non, mais après, je pense... Enfin, le côté humain, il manque... déjà, c'est un peu ce que j'ai essayé de t'expliquer après qu'on est... après le show. Tu vois, c'est que, justement, à la fin du show, je retrouve un peu le côté humain... dans ma famille avec mes enfants etc qui était qui m'avait enfin tu vois alors que moi je fuyais ce côté humain dans ma propre famille dans laquelle je suis né. Donc je pense qu'on n'a pas attendu ChatGPT pour se déconnecter des gens qui sont autour de nous, tu vois. Déjà c'était même possible avant internet, mais
on a cette tendance, tu veux dire, de toute façon.
Non, pas tout le monde, mais moi j'avais déjà cette tendance. Moi j'ai quelqu'un qui m'avait dit à l'école, Berlin, j'admire ta capacité à te déconnecter complètement du monde qui t'entoure. Parce que c'est vrai que de temps en temps, genre en classe, tu vois, il essayait de me parler et moi j'étais.
À quel âge ?
J'étais dans un. À 12 ans, je pense. 11 ans, 12 ans. Mais bref, et donc, déjà, moi, le fait de pouvoir. Accéder à des informations sur des trucs qui me passionnent, etc. Moi, j'ai foncé tête baissée là-dedans, en fait. Donc, j'ai pas eu besoin de ChatGPT. Et si tu veux, ChatGPT, c'est encore un truc en plus. Mais, je pense pas que, je pense pas qu'on ait eu besoin de ça pour fuir, de se confronter à la réalité, en fait. Et ce qui est un peu ce que j'essaie, en fait, c'est pour ça que pour l'instant, mon spectacle est encore en mode try-out parce que c'est vraiment, le message que j'essaie de, tu vois, de faire passer de manière un peu plus obvious que ce que j'ai fait quand tu l'as vu. Mais après, tout le monde a un peu des terreaux. Par exemple, moi, ça m'inquiète. Par exemple, les téléphones mobiles m'inquiètent plus que ChatGPT, en fait. Après, oui, sur le mobile, ils ont ChatGPT. Mmh. Mais déjà... le mobile a opéré une déconnexion énorme des adolescents par rapport à leur environnement qui n'existait pas avant. Ça, ça a été un vrai truc. Et tu vois, et moi, je suis un peu un père, j'ai un peu l'impression, tu vois, moi, j'attendais autour de moi, quand je grandissais, des enfants qui me disaient, ouais, mes parents ont interdit la télé, machin. Moi, j'avais la télé, mais j'ai l'impression que j'ai envie d'être un père hyper tradi en disant pas de téléphone, parce que ça me fait peur, en fait.
Ouais, c'est normal.
Et il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que ça affecte les adolescents de manière très négative. Ouais. Moi, je trouve ça hallucinant quand on va à des... J'étais à un anniversaire, là, il n'y a pas longtemps. Il y avait d'autres, couples, etc., avec des enfants. Et il y a des parents, quand l'enfant dit « Allez, je peux avoir ton téléphone », qui cèdent tout de suite, tu vois.
Alors que... Dans la paix.
Oui, mais quand même, on est venu... Là, le concept, c'est on est tous... tu vois, on se voit un dimanche, plusieurs familles, etc. Les enfants jouent ensemble et ils n'arrivent même pas à résister à leurs enfants... Pour leur dire, non, mais tu te démerdes, voilà, tu te fais chier, parce que, en fait, il faut apprendre à se faire chier, parce qu'il y a un moment où, justement, tu trouves à te sortir de là.
Ouais. Et à être avec les autres enfants.
Ouais, avec les autres enfants, etc. Et du coup, en fait, ça m'énerve, parce que, du coup, mes gosses voient ça, allez, mais pourquoi lui, il a le droit d'être sur le téléphone? Et donc, tu passes pour un salaud, parce que tu dis, bah, je m'en fiche. Toi, tu seras pas dessus. Alors, heureusement, il y avait d'autres parents qui étaient comme moi, donc en fait, il restait des enfants sans téléphone, mais c'est hyper chiant.
Tu dois faire des anniversaires digital detox.
Ah non, mais les anniversaires, il n'y a même pas moyen qu'il y ait des téléphones, ça, c'est pas possible.
Non, mais c'est bien. Non, je trouve ça bien.
Ça, c'est pas possible. Mais même, tu vois... Mon gamin, le plus petit qui va avoir 10 ans bientôt, là, il y a quelques enfants dans sa classe, pas beaucoup, mais qui ont un téléphone depuis 8 ans.
Mais moi, j'ai entendu qu'ils ont déjà des montres connectées à l'école maternelle ou primaire.
Oui, mais ça, voilà, parce que c'est les parents qui ont...
Qui
sont, voilà, qui veulent traquer au GPS où sont leurs enfants.
Ouais. Moi, je trouve que je ne mettrai jamais cette montre. Tu vois, déjà, après, t'as un truc sur tout. Bon, voilà, c'est mon petit côté conspirationniste, tu vois.
Mais, moi, j'ai la puce, tu sais, qu'ils ont mis dans le vaccin, Covid. Avec laquelle ils me manipulent. Je mange des fraises.
Ouais, ouais. J'ai fait des
Maman, je ne mange pas du chocolat.
Ma mère va écouter. 100% chocolat, donc il n'y a pas de sucre dedans.
Parfait.
Tu peux y aller. Ta mère va écouter?
Je ne sais pas.
Tu sais ce que tu pourrais faire, c'est mettre le podcast en lien quand tu vends un ticket, comme ça les gens savent exactement, ils entendent tout le background.
Alors, j'espère que j'arriverai à être assez clair dans le spectacle pour qu'on n'ait pas besoin d'expliquer derrière pendant une heure. Comme j'ai pu le faire avec toi, quel était le vrai propos du spectacle?
Donc la révolution, elle est... Ok, non, il y a une question qui m'est venue quand t'as dit « je me sens pas prêt pour juin ». Est-ce que ton ancien spectacle, tu te sentais prêt? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es senti prêt ou tu l'as juste...
Alors, il y a eu quand même... Alors non, je me suis pas senti prêt pendant des années, mais il y a eu quand même un moment où j'ai ressenti que voilà, l'histoire était là. Après, il y a encore, même quand je l'ai fait plus ou moins pour la dernière fois en novembre, après, en fait, je l'ai encore fait après, mais bon. Je trouvais qu'il y avait des passages où c'était pas encore assez travaillé comme je voulais, etc. Mais c'est pas grave.
Mais
quand même, je me disais, voilà, j'ai le spectacle.
Ouais.
Là, pour l'instant, je l'ai pas encore.
Ah, ok.
Par exemple, les autres humoristes suisses allemands me disent... Mais Ben, on s'en fout, tu boucles la première, tu fais un tintamarre de fou, et puis de toute façon, ta première, tu sais bien que le spectacle, il sera pas prêt, et que... Et t'es là, mais t'es un malade. À la première, t'invites tout le monde, t'invites tout le gratin du showbiz, du showbiz suisse allemand, et moi, j'ai invité, tu vois, par exemple, j'ai invité personne encore. Et c'est dans un mois et demi. Donc, si jamais je me bouge pas le cul, personne va venir.
C'est un truc qui se fait, ça. C'est d'inviter tout le monde à la première.
Ouais.
Tu peux pas les inviter à la dernière.
Bah, c'est ce qu'il faudrait faire, en fait.
Au milieu.
Ouais. Bah, tiens, je vais révolutionner le...
Mais oui!
Non, mais c'était... par exemple, en France, t'avais ce même... J'ai bossé pendant un an dans le milieu du théâtre parisien, en tant que commercial de spectacle. Et t'avais la générale. Donc c'était, en fait, c'était pas la première. Ils disaient c'est la dernière répétition. Mais en fait, c'était vraiment le premier spectacle, en fait, qui jouait devant tout le monde. Et là, c'était devant tout le gratin. T'avais tous les professionnels, etc. Ça s'appelait la générale. Et donc, ouais, apparemment, ça se fait d'inviter... tous les gens pour venir te juger à la première quand tu n'es pas prêt.
Je trouve c'est... Voilà. Pourquoi cette pression? Non, mais c'est vrai.
Bah, je sais pas.
Alors que tu peux...
Changeons tout.
Oui.
Nous allons lancer un mouvement, lancer un mouvement révolutionnaire avec Ophélie.
Ouais.
Anti-pression
du showbiz. Ben, pour toi aussi, quoi. Enfin, je sais pas.
Non, mais effectivement, donc ça me met beaucoup de pression et moi, la pression, ça a tendance à me paralyser.
Voilà, besoin. Non,
voilà, là, je... c'est pour ton côté thérapeute.
Merci.
Ça te fait plaisir. Hein.
Ouais, j'adore. Ok, bah oui, parce que Internet, je. Je sais pas quoi dire. Encore moins, qu'est-ce que t'as étudié?
Qu'est-ce que j'ai étudié?
Qu'est-ce que t'es en train d'étudier là?
Ah, non, mais l'électronique. Mais c'est vraiment genre, tu vois, les composants électroniques, comment ça marche, la transmission
la puce
de messages.
Ouais. T'es en plein dedans, ouais. Du coup.
Je suis en plein dedans.
Ok, donc.
Le Wi-Fi, les antennes mobiles.
La 5G.
Ma femme me dit, parce que je suis obsédé par les antennes. Donc, dès que je vois. Ah, regarde, t'as vu, il y a une antenne. Elle me dit, mais on s'en fout.
Elle te dit ça?
Non, mais en rigolant. Mais... Et elle se moque de moi parce que il y a eu l'antenne de Bonstetten. Et la dernière fois, on rentrait de Zurich en voiture. Et à un moment, dans la voiture, je tourne la tête comme ça. Je dis, mais il y a une deuxième antenne. Et là, elle s'est bien foutu de ma gueule.
J'aimerais trop entendre sa version de la vie, quoi. Un jour, j'ai rencontré...
Non, mais ma femme, quand je lui ai dit, écoute, ça va paraître bizarre, mais je pense commencer un cursus de bachelor en ingénierie. Et elle m'a dit, je ne sais pas quoi te dire.
Tu rigoles dans ce moment-là ou...
Non, mais elle avait... Enfin, elle avait raison. Parce que c'est complètement irrationnel. Qu'est-ce que je vais faire de ce truc? J'en ai fait, si, j'en ai fait un show sur Internet, voilà. Parce que j'ai appris comment l'électricité avait été faite, donc je l'ai mis dans mon spectacle. J'ai appris comment... j'ai appris comment marche un transistor, qui est genre... Enfin, c'est...
Je sais pas que t'avais... Tu devrais le dire sur scène, que tu fais un bachelor de ça.
Bah écoute, j'avais tout un passage sur justement sur l'université en ligne. Peut-être que je devrais le rajouter. Ouais. Ouais.
Obligé.
Ouais.
Surtout de ce que c'est exactement. Je pense que... Ok, tu disais un truc où je pouvais enfin participer.
J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, la peur de se montrer, je sais pas, t'avais envie de me psychanalyser alors.
Non, j'ai pas envie de te psychanalyser, mais de parler, parce que moi, je te disais que quand là je fais 10 minutes de storytelling début mai,
ouais.
Et ça m'a donné mal au dos au point de plus pouvoir marcher. Donc j'avais envie d'entendre ton point de vue sur le processus créatif, sur se montrer, sur scène. Et si ça faisait des trucs dans ton corps aussi.
Ben moi déjà en fait même c'est pas du tout naturel chez moi en fait. J'ai toujours eu l'envie, donc c'est pas comme si c'était tombé comme un cheveu sur la soupe, mais mon corps entre toujours en grande résistance,
ouais
de m'exposer, etc. Je pense que c'est des problèmes un peu de confiance. et ça me, enfin, je sais pas comment te dire, moi c'est pas mal au dos, mais ça me noue l'estomac, mais pendant des semaines, et ça me paralyse, et là, par exemple, je suis un peu paralysé, tu vois, je suis,
parce que tu te sens pas prêt.
Parce que je me sens pas prêt. Mais pareil, tu vois, par exemple, pour les vidéos Instagram, j'avais commencé à mi-décembre, j'étais à fond, j'en faisais une tous les jours, etc. Puis là, je vois...
J'en rigole trop.
Alors juste, Ophélie est allée prendre la boîte de mouchoirs parce qu'elle pense que je vais me mettre à pleurer.
Si j'avais envie, je pourrais te faire pleurer, mais...
Ah, ok.
J'ai pas envie aujourd'hui, c'est bon.
Alors, je te mets au défi de me faire pleurer. peut-être pas en enregistrement, mais quand on coupera,
non.
On va voir si tu vas y arriver. Et on pourra en faire un deuxième
épisode. Et si j'y arrive?
Et si tu arrives?
Et si j'y arrive quoi?
Mais donc, sur Instagram, tu vois, quand je vois que les vidéos elles prenaient pas comme ce que j'avais espéré, etc., mais en même temps, qu'est-ce que j'avais espéré vu que j'en avais jamais fait à ce rythme là pendant,
c'est la pression qu'on
se met. Et là ça m'a paralysé, donc là ça fait quelques semaines que je suis assez inactif parce que je suis complètement tétanisé.
Mais parlons-en de ça, exactement. Instagram, déjà c'est parce que tu te filmes aussi, donc déjà tu postes tes passages avec le public des fois,
parfois.
Et après, tu postes aussi des vidéos. T'avais fait un peu les infos.
J'avais essayé plein de trucs, tu vois. Ouais.
Et est-ce qu'il y a, avant de poster, dis-moi comment tu te sens avant de poster ça.
Il y a quand même un truc que j'ai appris quand même autour de tous ces trucs créatifs, c'est, alors ça va être en complète contradiction avec ce que j'ai dit, que j'étais paralysé. C'est que parfois j'arrive quand même à juste me dire il faut que tu le fasses parce que tu t'es fixé l'objectif et on ne réfléchit pas à ce que ça devient,
tu laisses, tu le fais et tu laisses même pas la place à la pensée.
Donc par exemple j'ai un quota d'écriture un peu quotidien qui est, tu vois, un certain nombre de mots et maintenant je me pose plus la question de est-ce que ça va être bien ou pas, je le fais, tu vois. Ça permet au final, tu vois, d'avoir des blagues, tu vois, avec le temps, parce que je jette beaucoup, mais... Et j'étais dans un moment où tu fais juste une vidéo par jour et tu réfléchis pas. Et puis, il y a un moment, je suis arrivé sur un... sur un mur.
T'as réfléchi?
Ouais, parce que la vidéo, c'est quand même... c'est un processus qui est beaucoup plus long, parce que tu dois quand même l'écrire.
Ouais.
Après tu dois la tourner, après tu dois la monter, donc
ça prend énormément de
temps. Donc ouais, il y a un moment j'ai trop réfléchi, ouais. Il faudrait que j'arrive à me remotiver je sais que je sortirai de ça parce que je suis déjà sorti dans le passé de ça, en fait. Là, ça fait, on va dire 8 ans que je suis beaucoup plus investi dans ce que je fais créativement. Donc, je commence aussi à me connaître créativement. Et de me dire, t'as un peu une paralysie sur ce point-là, mais je sais que ça va passer.
Ouais.
Mais ça, tu peux pas le savoir sans avoir l'expérience créative de quelques années pour t'être observé toi-même.
C'est comme atteindre un plateau. Mais après, faut que t'ailles par-dessus.
Ouais, soit un plateau, soit de temps en temps, tu rencontres une certaine résistance qu'il faut arriver à briser. Je sais pas trop ce que c'est.
J'ai ça quand je poste sur Insta. J'ai commencé à poster des stories un peu débiles ici et là. Mais voilà, mais ça fait un ou deux ans que je pratique me filmer sans jamais rien poster.
Ouais.
Tellement j'arrive pas, tu vois. Tellement c'est, je me dis, non, mais je peux pas poster ça parce que regarde mes cheveux et regarde ci, regarde ça. Et là, j'ai commencé à le faire Mais des fois, ça me met 5 jours avant de la poster. Ou des fois, ouais. Je me dis non, mais c'est trop cringe, je peux pas.
Ouais.
Et après, je bloque certaines personnes que je veux pas qu'ils voient. Et maintenant, j'ai débloqué les personnes. Et là, ce soir, je vais en sortir une. Et ça m'aide beaucoup. Moi, c'est beaucoup sur le dating. C'est
ouais,
ce
genre
qui me. Ouais. Enfin, c'est hyper personnel, c'est
ouais.
hyper vulnérable.
Ouais.
Et je pense que ouais, c'est une pratique vraiment à avoir. Mais au début, c'est, t'as l'impression que le monde va s'écrouler, alors que pas du tout. Tu vas avoir après des petits feedbacks de tes potes qui sont les seuls à regarder ça, hein, parce que et même eux, quand je mets pas de sous-titres, ils regardent pas, tu vois, parce qu'ils me disent ah je regarde dans le lit, à mon mec à côté, je mets pas le son, tu vois. Donc tout le monde s'en fout en fait, tu vois.
Non mais c'est vrai, il y a tellement de trucs qui sont publiés que ouais.
Donc
ça devient dur de capter l'attention quoi.
Après je vais partager un. Non, je te partagerai après.
Vas-y. Ah ok.
C'est sur dating. Il y a un ex.
Ça sera avant ou après que tu m'aies fait pleurer.
Donc là on a parlé d'Instagram et comment tu le sens et tout et que c'est vraiment une pratique et que. Voilà, ça devient...
Mais alors, tu vois, il y a un truc, c'est que même si jamais c'était dur et puis j'étais un peu tétanisé, etc., j'ai quand même aimé le concept de tu te lèves le matin, tu dis, mais qu'est-ce que je vais produire aujourd'hui ? Parce que c'était un peu comme... c'est un peu comme si tu avais ta chaîne télé et puis, tu vois, tous les jours, tu dois montrer un truc, tu vois. Tu dois faire ton programme...
Ouais.
Et même si jamais, tu vois, je me suis pris principalement des bides.
Mais sur les réseaux, là.
Ouais, ça m'a vachement plu. Et je me disais, tiens, je me verrais bien avoir cette vie-là.
De créateur de contenu.
Ouais, parce que pour moi, c'est, enfin, tu vois, créateur de contenu, ça fait genre vraiment influenceur, et ça, machin. Mais,
ouais,
mais pour moi, c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui est à la télé qui doit produire son émission quotidienne, tu vois. Qui doit produire sa chronique, qui doit produire ses 4 minutes de sketch.
Et t'avais toujours des idées ? Ou tu faisais du batch ?
Non, en général, j'arrive. Ouais, les idées viennent en fait.
Ouais.
Même si. Si tu te mets devant ton ordinateur avec assez de minutes par jour, les idées viennent.
C'est une pratique.
C'est une pratique, ouais. Tu sais jamais d'où ça vient, ni j'ai pas de recette secrète, hein, à part se planter devant son ordi et puis commencer à écrire, quoi.
Parce que moi, je produis pas comme ça du tout.
Justement, je pense que chacun doit trouver le truc qui marche pour lui.
Ouais. Moi, c'est plus, j'ai un truc qui va m'inspirer pendant la journée. D'ailleurs, le matin, y a rien qui se passe dans mon cerveau.
Ouais.
Je me lève. Il n'y a rien. La veille, j'aurais fait des trucs le soir, mais je ne vais même pas y penser le matin. Tu vois. Il va vraiment falloir que j'ouvre mon journal ou mon ordi pour voir. Ah oui, c'est vrai, je travaillais sur ça. Bon, on va continuer, mais
c'est un
canevas blanc. Tu vois. C'est genre. Ah oui. Et c'est vraiment un truc qui va m'inspirer pendant la journée et que je vais me dire il faut que j'écrive ça absolument. Mais que je pense que tu as aussi. Quand il arrive un truc pendant la journée, quoi.
Si j'ai un truc qui m'arrive pendant la journée et que je me dis, ça serait bien d'en faire un sketch ou un truc, j'ai un endroit où je le mets, ça. Donc après, tu vois, quand je fais mes séances d'écriture, c'est pas, je m'assois et puis j'attends que l'inspiration arrive.
La muse.
Enfin, voilà, parfois c'est ça, mais parfois je regarde un peu où est-ce que j'ai mis mes idées et je commence à écrire là-dessus.
Ok.
Donc c'est pas. Si, je pense qu'on. Enfin, j'ai ça aussi.
De quoi ?
J'ai ça aussi. J'ai un peu un processus tu vois, j'ai un truc qui m'inspire et puis après, plus tard, j'écris là-dessus. Mais j'étais obligé de m'organiser parce que, avec le boulot, les trucs. Et puis après aussi, quand tu fais du stand-up, le soir, t'es obligé d'aller jouer donc. Et puis, avant d'aller jouer, faut répéter. Donc en fait, moi, j'avais pas vraiment le temps. Entre le boulot et la scène, d'écrire des nouveaux trucs, en fait. Donc, vraiment, pour moi, mathématiquement, le matin, c'était vraiment le seul moment où je pouvais faire ça. Non, je suis chômeur, donc j'ai plein de temps libre.
Et c'est comment ça, pour ton processus créatif ?
Ça ne m'aide pas du tout.
C'est vrai?
Parce que ça devient, ben là, voilà, tu dois produire pour en faire un métier, tu dois gagner de l'argent, et alors
C'est plus stressant.
ma créativité, elle fonctionne pas.
Ouais.
J'aimerais bien que ma créativité soit un petit peu plus pute. Qu'elle ait plus l'appât du gain, tu vois. Je vais te donner ce que tu veux si tu me donnes de l'argent, tu vois. Mais malheureusement, non.
Ouais, ça marche pas comme ça. Mais c'est incroyable que c'est à noter ça. C'est incroyable que tu aies pu produire tellement, ouais, écrire tellement de blagues, alors que tu as un métier à temps plein et que tu as 2 enfants. Pour moi, c'est comment il fait.
Souvent, les parents, ils disent que quand t'as des enfants, tu découvres le temps que t'as.
Voilà. Ouais.
Ouais, c'est un peu ça.
Que
Hein.
t'as
Moi,
plus le
c'est un
temps.
peu aussi ce qui m'a réveillé. Hein.
Ouais, t'as plus le temps. Tu peux plus te permettre de procrastiner, en fait. Faut juste que tu le fasses. Faut que tu utilises toutes les minutes que t'as pour.
Ouais, après, enfin, ouais, enfin, il y a beaucoup de procrastination dans ma vie aussi, hein, mais c'était plus genre, ouais, je sais pas, le truc que tu pensais impossible avant, tu te rends compte, bah qu'est-ce que tu racontes là? Si, t'as 1 heure. Et tu vois,
Tu
tu te rends compte des ressources que
l'apprends.
t'as, en fait. Mais ça vient aussi à un moment où t'as peut-être aussi t'as plus d'idées de ce que t'as envie de faire. Moi, là, j'ai commencé à 37 ans, le stand-up, mais c'était pas la première fois que j'essayais dans ma life, tu vois. Et là, quand j'étais un peu plus jeune, mais, je sais
À
pas, je m'étais
Paris.
dispersé, ouais, j'avais fait un peu...
Mais t'avais fait un spectacle, non? Ouais.
Ouais, j'ai fait un spectacle. Mais j'étais parti un peu à droite à gauche. Alors que là, tu vois, j'ai fait un open mic à Zurich avec des gens que j'ai rencontrés sur Internet, justement, sur un forum. Et puis on a fait ça, c'était génial et tout ça. Et puis je me suis dit, et en fait, je me suis dit, bah Ben, t'as 37 ans, tu ne seras jamais connu. Tu vois un peu les pensées
Ouais,
limitantes. Mais donc,
ouais,
du coup,
mais sans pression,
mais
du coup,
voilà,
en
et
même
du coup,
temps.
zéro pression, mais.
Ouais.
Maintenant, dans ma tête, c'était clair que j'avais envie que ce soit dans ma vie, le stand-up. Et voilà. Donc après, comme ça, c'était un choix clair et que je savais que j'avais envie de ça, bah l'heure, tu vois, que j'avais de dispo,
Ouais.
j'avais envie de la consacrer à ça parce que j'étais plus, tu vois,
Ouais, ça fait
j'avais
sens.
quelques heures de
Non, mais aussi, surtout, tu l'avais fait il y a des années auparavant, et après, c'est revenu. Donc, je fais vachement confiance à ce genre de truc aussi, tu vois, que ça revienne comme ça dans ta vie. Bon, c'est
Mais ça m'avait
pas.
jamais complètement quitté. Parce que parfois, souvent, je regardais un peu cette période tu vois, de ces 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi à Paris, et puis je me suis dit, bah, à quoi ça a servi en fait. Et quand j'ai fait le discours de témoin de mon pote, là je me suis dit, ok,
Juste
là
après,
t'es à un niveau où. Bah, en
tu peux le
fait,
faire en fait.
deux années de stand-up,
Ouais.
ça t'a quand même mis à un niveau qui est quand même au-dessus des autres, quoi.
Ouais.
Et pareil, quand j'ai fait mon MBA, là aussi j'ai remarqué que quand je devais prendre la parole en public, j'avais quand même, ça n'avait pas servi à rien, quoi.
Ça
Et ça m'a
marche
beaucoup servi dans ma carrière.
pas.
Je pense que ça m'a beaucoup aidé à monter là où j'étais. Et c'est aussi, à mon avis, ce qui a contribué à me faire virer au final. Mais.
Bénéfique au début et
Je pense que j'étais monté tellement haut qu'il y a un moment, tu peux pas.
c'est vachement intéressant que tu vois, tu prends confiance dans un domaine et après tu prends confiance dans un autre domaine aussi.
Ouais.
Ouais.
Il est vrai.
Non, mais c'est jamais pour rien qu'on fait les choses. Tu apprends toujours forcément une skill.
Ouais, alors pas forcément. Enfin, oui. Par exemple, moi, c'est un truc où j'ai toujours. Tu vois, apprendre un skill, je pense que pas tout le monde a ça.
De quoi? De vouloir
De
apprendre quelque
vouloir
chose de
apprendre quelque
nouveau?
chose. Ouais. Il y a des gens qui aiment bien le statu quo. Moi, par exemple, monter sur une scène devant des gens, parler, etc., c'est un truc où j'ai dû me foutre des coups de pied au cul parce que j'étais vraiment. Par rapport aux autres gens, j'étais mais très loin derrière. Tu vois, je voyais dans la classe, etc. Moi, quand je devais m'exprimer en public, c'était pire que tout le monde. C'était vraiment nul.
Moi, je me devinais tout rouge, je transpirais à fond.
Ouais.
T'avais ça aussi?
Ou le cœur qui battait, ouais, beaucoup de transpiration, beaucoup. Mais enfin, j'ai encore ça. Hein. Souvent, j'ai la transpiration sur le front. Mais bon, c'est comme ça, quoi.
T'as comme l'envie de le faire et puis.
J'ai quand même l'envie, ouais. Par exemple, tu vois, quand j'avais essayé de faire du stand-up à Paris, il fallait que j'aie un boulot alimentaire et je voulais pas prendre n'importe quel boulot. Je me suis dit, allez, je vais prendre un truc qui va me prendre un skills. Et je suis parti faire de la vente en sachant que j'étais nul. Et en fait, au final, ça m'a vachement appris et je pense être assez bon commercial aujourd'hui. Mais je pense pas que tout le monde. Parce que quand t'apprends un skill comme ça, tu passes quand même par vachement de moments où tu tapes la honte, t'es nul, tu te fais juger par les autres. Tu vois, oui, il faut s'en foutre de ce que pensent les autres, mais c'est dur quand même parce que quand t'es un loser, c'est un peu chiant, quoi. Et donc tu vois, tu dois passer par vachement de moments de lose pour devenir, tu vois, surtout si t'as envie d'aller dans des choses difficiles. Ça a été un truc. Moi, j'ai toujours bien aimé aller justement dans ces. J'ai cette valeur d'apprendre, de toujours être en apprentissage. Et là, c'est le dernier bachelor que je fais là, parce que c'est n'importe quoi. Honnêtement.
En plus des enfants et du stand-up.
Non, mais c'était n'importe quoi. Mais ouais, et d'apprendre, c'est une valeur dans ma vie.
Ouais.
Mais je pense que tout le monde l'a pas forcément.
Ouais.
Parce que c'est tellement inconfortable.
C'est ça qui fait que tu restes bien dans ta tête aussi. Si, c'est bien pour le cerveau. Tu vois, les gens, ils.
Je pense qu'effectivement, oui, ça empêche que. Enfin, ça ralentit ma sénilité.
Ouais. Et ça te rend plus flexible au quotidien par rapport à des. Tu vois, si les situations changent.
Probablement.
Je ne travaille pas pour le moment, mais tu vas peut-être mieux l'accepter ou mieux le vivre que quelqu'un qui a fait la même chose toute sa vie et qui tout d'un coup ne fait plus rien et
ouais
tu vois
c'est possible
autre chose va venir ça ouais. Tout change tout le temps, voilà, tu restes plus flexible. Moi, je change de job tous les ans, donc ça aussi.
Non, mais moi je vois, enfin, mon grand-père maternel, il a fait le même métier pendant des années et puis quand il est parti à la retraite, c'est vrai qu'il a décliné hyper vite. Bon, après, il a pas eu de chance, c'est le Alzheimer. Mais Alzheimer, enfin, on dit aussi que justement, si tu entraînes ton cerveau, ça ralentit vachement la maladie, quoi.
Ouais. Et tu l'entraînes pas en regardant la télé le soir après le travail.
Ouais.
On est bien d'accord.
Donc, voilà, moi, j'apprends l'électronique.
Voilà.
C'est comme ça que je fight. C'est comme ça que je fight Alzheimer.
Et j'écris des blagues et.
Ouais, j'aime bien m'occuper.
Ouais. Est-ce que tu as un truc à rajouter?
Je crois qu'on a tout dit.
Combien on est ?
On doit être à 2 heures au moins, non ?
Une heure 11.
En juin.
Non, mais venez voir mon spectacle, même si jamais je suis pas prêt, venez. Non, mais je pense que ça va être chouette parce que je pense que culturellement, c'est aussi des questions que beaucoup de gens se posent, donc ça tombe aussi au bon moment. Même si jamais c'est un truc que j'avais en moi depuis très longtemps. Je pense qu'il arrive un peu au bon moment et puis c'est pas si sérieux que ça non plus. Enfin, tu l'as vu, c'est quand même.
C'est très drôle. Allez voir son spectacle.
Merci. Bencomedian.com.
Voilà, je mettrai tous les
liens.
Les liens et le premier podcast qu'on a fait.
Et surtout le Instagram, le profil Instagram Bencomedian.
Ouais.
Que vous voyez. En direct, ma paralysie ou pas, ou mon succès.
Voilà, merci Ben.
Et merci Ophélie de l'invitation.
À la prochaine. Merci.
Et en bonus sur Patreon, Ophélie va me faire pleurer maintenant.